en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Richard Descoings sur l'Institut d'études politiques de Paris dans le paysage universitaire français lors de la séance hebdomadaire de l'Académie des sciences morales et politiques du 22 juin 2009, dont le thème, cette année, s'intitule « Université, sciences et recherche ». Retrouvons Richard Descoings, directeur de Sciences Po à l'Académie des sciences morales et politiques.
J'organiserai, si vous le voulez bien, mon propos en trois points. Le premier consistera à rappeler comment Sciences Po a longtemps occupé une place très singulière dans le paysage universitaire français. Et le deuxième point insistera sur l'importance des mutations que cette institution a connues depuis une vingtaine d'années à raison de l'entrée dans l'ère de la compétition internationale entre les systèmes universitaires et tout simplement entre les institutions universitaires. Le troisième point, on déduira la conséquence que cette institution créée hors de l'université, longtemps marginale, occupe désormais une place plus centrale, sans doute, dans l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, système qui est lui-même largement sorti d'une forme d'immobilisme qu'il avait connu pendant quelques décennies. Sciences Po, donc, a longtemps occupé une place bien singulière dans le paysage universitaire français. Pour décrire cette singularité, il me paraît nécessaire de faire appel successivement aux sciences humaines et sociales, dans l'étude desquelles se forge la formation intellectuelle de nos élèves. L'histoire, le droit et les institutions, l'économie, la sociologie, en somme, les disciplines universitaires qu'au moment de la création de l'école libre des sciences politiques, on appelait justement les sciences politiques. Alors l'histoire, tout d'abord. Vous savez que la création de l'école libre des sciences politiques a été en quelque sorte une des conséquences de la crise allemande de la pensée française, comme un historien du milieu des années 1950 l'a appelé, c'est Taine, très largement, qui a pensé l'école libre, et c'est Émile Boutmy qui en a été le créateur, qui a donné son nom à un amphithéâtre que beaucoup d'entre vous ont connu comme professeur. Cette école, elle s'appelle tout de suite libre, c'est-à-dire qu'elle est libre de toute tutelle de l'État, elle est libre du système universitaire qui existait début des années 1870. La conviction des nombreux intellectuels qui ont participé à la création de l'école libre, qui était une société, il y a eu 400 actionnaires qui ont souscrit les sommes nécessaires pour créer l'école libre. L'idée était assez simple, c'est que l'Allemagne avait formidablement réussi le ressourcement de son université, de ses universités, notamment sous l'impulsion des frères Humboldt, que ce modèle allemand avait essaimé, notamment aux États-Unis, et plus largement au Canada, mais que les facultés françaises, elles, n'avaient pas, tout au long du XIXe siècle, prospéré de la même manière depuis que la Révolution française avait supprimé les universités au titre de corporation. Et il faudra attendre la loi de 1968 pour que le terme « université » revienne dans le vocabulaire législatif français. Donc une école libre, une école libre qui repose sur un projet pédagogique, il ne s'agissait pas de recherche à l'époque, un projet pédagogique assez simple, proposé à des élèves curieux d'esprit et entreprenants, d'ancrer leur formation intellectuelle dans l'étude des humanités et des sciences sociales. Une école libre tout de suite ouverte à de nombreux étudiants étrangers, autre différence par rapport aux universités françaises, une école libre, enfin, qui se donne pour objectif moins de former de futurs professeurs, comme c'était largement le cas des facultés, mais de former des hommes, tout d'abord, puis à partir de 1919, des femmes et des hommes d'action, d'action dans les entreprises, d'action dans les administrations publiques et d'action, bien sûr, dans la vie politique. Cette école libre naît très modestement. Quelques dizaines d'élèves, quelques professeurs, des locaux itinérants jusqu'en 1878, la duchesse de Cagliera fasse un don d'un million de francs pour que Émile Boutmy puisse acheter l'actuel 27 rue Saint-Guillaume. Mais une école qui progressivement prend de l'ampleur. Et prend de l'ampleur par une voie qui n'était pas du tout celle prévue par Émile Boutmy. Elle prend de l'ampleur parce que pour réunir des fonds, pour réunir les ressources nécessaires à son développement, eh bien, Émile Boutmy crée les écuries qui préparent aux concours administratifs, dirait-on aujourd'hui, aux grands concours de recrutement de la diplomatie, du Conseil d'État, de l'inspection des finances, de la Cour des comptes. Et par rapport au projet intellectuel fondateur, il y a comme une espèce de dérive, alors dérive extraordinairement porteuse d'avenir, mais qui va progressivement installer l'idée que l'école libre, tout d'abord, puis l'Institut d'études politiques plus tard, ne serait au total qu'une antichambre de l'École nationale d'administration après 1945, une antichambre des grands corps de l'État avant 1945. Cette petite école, elle prospère donc tant et si bien que, au milieu des années 30, et notamment au moment du Front populaire, on s'inquiète un peu de ce qu'une institution purement privée, sans financement public, mais sans tutelle publique, puisse constituer le vivier dans lequel se retrouveront les futurs hauts fonctionnaires de la République. Et dès les années 30, il y a des projets, ce qu'on appellerait nationalisation de l'école libre. Mais mon point est important, c'est de dire, voilà, par rapport au projet fondateur, projet philosophique, projet intellectuel, l'école libre est décentrée vers cette préparation au concours de la fonction publique. Je passe rapidement les étapes, mais 1944-1945 est évidemment un moment tout à fait important, puisque c'est en quelque sorte la refondation des sciences politiques. Le général de Gaulle, dès qu'il prend la présidence du Conseil, décide qu'il n'est plus possible de confier à une école libre le soin de préparer les futurs hauts fonctionnaires de l'État, et vous savez combien il attendait que l'État vienne reconstruire la nation, et au moment même où il crée l'École nationale d'administration, il crée d'un même mouvement deux institutions qui sont toutes les deux héritières de l'École libre, une institution d'enseignement public, l'Institut d'études politiques de l'Université de Paris, c'était à l'Institut de l'Université de Paris, et puis une structure juridique privée, la Fondation nationale des sciences politiques. Alors pourquoi deux institutions pour prendre la succession d'une seule? Tout simplement parce que un esprit éminent, Jean-Marcel Jeannonet, trouve en quelque sorte cet artifice juridique qui permet de faire en sorte que dans sa mission d'enseignement, l'ancienne école libre intègre le secteur public de l'enseignement supérieur, mais que la gestion de cette structure publique nouvelle soit immédiatement confiée, d'ailleurs par convention, à une structure privée, la Fondation nationale des sciences politiques. Il faut bien voir qu'en 1945-1947, on n'imaginait pas du tout que la Fondation nationale des sciences politiques connaîtrait l'essor qu'elle a connu depuis. C'était d'abord une structure de portage juridique, comme on dirait aujourd'hui. Ces deux éléments de l'histoire de Sciences Po, un peu la dérive, si je puis dire, le décentrage vers la formation, la préparation au concours des grands corps de l'État, puis le rôle exigé par le général de Gaulle de l'Institut d'études politiques de Paris après 1945, explique d'une certaine manière l'hypertrophie au sein de l'institution de la place qui a longtemps été accordée à cette partie des élèves et à cette partie de l'institution qui préparait aux concours administratifs. Jusqu'au milieu des années 80, Sciences Po se définit largement comme étant la meilleure des préparations pour des jeunes gens doués, pour de futures fonctions publiques élevées à travers la préparation au concours de l'École nationale d'administration. Et on a fini par oublier, dans les années 1960, dans les années 1970, que Sciences Po, en aucun cas, ne pouvait se limiter à cette image. D'une part, parce que la recherche, et notamment la recherche collective, a été très largement développée tout au long des années 1950 et 1960, et parce que, dès le milieu des années 1960, Sciences Po diplôme chaque année environ un millier d'élèves, et que quelques dizaines seulement parmi eux se retrouveront un jour sur les bancs de l'École nationale d'administration. Et c'est cette dérive qui a conduit Alain Lancelot, mon prédécesseur, à souhaiter revenir un petit peu aux racines de l'école libre, ces racines étant des racines intellectuelles, avant d'être des racines techniciennes. Et un élément important de l'action d'Alain Lancelot à la tête de Sciences Po a été de réunir Sciences Po autour d'enseignements fondamentaux, autour des relations internationales, autour de l'économie, en partie autour du droit, et donc à redonner un souffle intellectuel à une institution qui peut-être s'était progressivement perdue dans des préparations un peu techniques à des concours administratifs. Après l'histoire, le droit et les institutions permettent de comprendre la singularité de Sciences Po. Je l'ai dit, une institution, mais deux structures juridiques distinctes, étroitement imbriquées, la Fondation nationale des sciences politiques, qui est en réalité l'institution maîtresse, et l'Institut d'études politiques de Paris, qui porte les missions de formation initiale et de formation continue de cet ensemble institutionnel. Qu'est-ce qui caractérise, à mon sens, le droit et les institutions de Sciences Po? D'abord, des conseils qui sont à la fois puissants, éclairés et stables. Et vous comprendrez tout de suite que je fasse la différence avec ce qui, pendant longtemps, a été la situation des universités en France. Des conseils puissants, au sens où ils ont la totalité des compétences de décision. Lorsque le conseil de direction de l'IUP de Paris, que préside Michel Pébrot, prend des décisions concernant les conditions d'admission à Sciences Po, l'organisation des scolarités, le contenu des études, les conditions auxquelles des diplômes sont délivrés, eh bien, c'est un conseil qui a pleinement compétence. Il n'y a nulle intervention de corps extérieur à l'IUP. De la même manière, le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques est un conseil particulièrement puissant puisqu'il est en charge l'ensemble de toutes les politiques de l'institution, la politique scientifique, la politique de documentation et puis l'ensemble de ce qui concerne les finances, la gestion des ressources humaines, le parc immobilier. Et de la même manière, ce conseil prend en toute liberté et en toute compétence toutes les décisions qui lui appartiennent. Il n'y a pas même de représentants de la tutelle dans ce conseil d'administration. Ces conseils sont stables. Je crois qu'une des forces de l'institution Sciences Po, c'est la continuité dans le temps des politiques qui sont menées. René Raymond a été très longuement président du conseil d'administration de la FNSP, président de la FNSP. Il a imprimé sa marque parce qu'il avait le temps avec lui. Et ces conseils sont également éclairés. Le conseil de direction de l'IUP de Paris ressemble dans son principe à un conseil d'administration d'université, 8 élus étudiants, 8 élus des enseignants, 3 élus des salariés, mais en réalité, par son mode de fonctionnement, par la façon dont son président est renouvelé, souvent à l'unanimité, année après année, nous avons une très grande stabilité. Je crois que les institutions universitaires ont besoin de stabilité parce que développer une politique scientifique, cela prend du temps. Développer une politique éducative, cela prend du temps. Et les ruptures de rythme, parfois les ruptures politiques, sont parfois extrêmement désastreuses. Toujours sur le droit et les institutions, l'exécutif de Sciences Po est caractérisé par un véritable contrôle opéré par les conseils, par une responsabilité ressourcée dans chaque conseil d'administration et en même temps un exécutif qui est libre des initiatives qu'il peut présenter au conseil. Mon troisième point pour décrire cette singularité de l'institution, c'est sa sociologie. Les professeurs permanents à Sciences Po sont peu nombreux, mais ce sont de très grands noms. le roi Beaulieu, Elia Lévy, Touchard, Raymond Barre, René Raymond, permettez-moi de citer Michel Pébreau, j'ai déjà fait, Hélène Carrère-Dancauche, nous avons des professeurs, certes en petit nombre, mais qui généralement ont non seulement un rôle essentiel auprès de nos élèves, mais ont un rôle très particulier dans le débat public. Sciences Po s'est toujours caractérisé par l'intervention dans le débat public grâce à ses professeurs. Nous avons des chercheurs à Sciences Po, à peu près une cinquantaine de chercheurs CNRS, une cinquantaine de chercheurs liés à la Fondation. Nous sommes une des rares institutions à avoir refusé la fonctionnarisation des chercheurs au début des années 1980. Spécificité aussi de la sociologie à Sciences Po, les maîtres de conférences, ainsi que nous les appelons, qui sont des personnalités des entreprises, des personnalités du monde administratif, du monde politique, et aussi des professeurs d'autres universités qui acceptent de venir, de prendre de leur temps pour enseigner à nos élèves. Et donc, nos élèves se trouvent tout au long de leur scolarité confrontés avec des esprits que je crois généralement extraordinairement libres et surtout à des esprits extrêmement différents les uns des autres. Et je crois que c'est une des richesses de notre institution que de permettre cette grande mixité. Quatrième élément de singularité, l'économie. La Fondation nationale des sciences politiques est une fondation de droit privé à but non lucratif. Cela nous permet de tenir une comptabilité d'entreprise et non pas d'être soumis aux règles de la comptabilité publique. Cela nous permet également d'employer des salariés de droit privé et donc de n'être pas soumis aux droits de la fonction publique. Certains chefs d'entreprise parfois regrettent le manque de flexibilité du droit du travail. Permettez-moi de dire que lorsqu'on a l'immense joie d'appliquer le droit du travail plutôt que le droit de la fonction publique, on a un grand sentiment de souplesse. Économie toujours, les ressources de la Fondation sont à la fois croissantes et diversifiées. Elles sont croissantes parce que le soutien de l'État est solide dans le temps, même s'il est parfois limité par un certain goût d'égalitarisme dans l'allocation des moyens. Ces ressources sont surtout diversifiées et dynamiques, puisque nous avons fait feu de tout bois pour les augmenter. Nous avons organisé un système de droits de scolarité en plusieurs niveaux, et le montant des droits de scolarité est étroitement lié aux ressources des familles auxquelles appartiennent nos étudiants. Nous avons multiplié les partenariats avec les entreprises, et depuis les lois qui ont été adoptées par le Parlement à l'été 2007, nous faisons appel à la générosité des donateurs privés. Nous avons un budget d'environ 120 millions d'euros. Près de la moitié de ce budget est aujourd'hui constitué de ressources propres. C'est dire que nous avons presque aujourd'hui un équilibre entre les ressources publiques et les ressources que nous générons par nous-mêmes. Voilà pour vous décrire très rapidement ce que sont les singularités de cette institution d'enseignement supérieur et de recherche qui, vous l'avez constaté, n'est guère comparable dans ses différents termes aux universités françaises, tout au moins jusqu'aux lois récentes. Mon deuxième point, et celui qui me paraît sans doute le plus important, c'est de vous dire comment l'entrée dans l'ère de la compétition internationale, qui date d'il y a 15 ou 20 ans, en matière d'enseignement supérieur et de recherche, a constitué un levier de changement extraordinairement puissant qui a permis des mutations profondes et des mutations, j'insiste sur ce point, qui ont été initiées par l'institution elle-même en son sein. Les mutations de Sciences Po ont été décidées au sein de l'institution par les conseils de Sciences Po. Alors, commençons d'abord par rappeler rapidement ce que sont les exigences et les opportunités de la compétition internationale. La compétition internationale, c'est très simple en matière universitaire. Comment attirer à nous les meilleurs professeurs et les meilleurs élèves ? Comment faire en sorte que nos chercheurs, nos professeurs et nos élèves soient désirés dans nos institutions, dans les institutions partenaires ? Comment faire en sorte que nos docteurs soient recrutés par d'autres universités que des universités françaises? Comment faire en sorte que certains de nos professeurs soient, si vous me permettez l'expression, débauchés par d'autres universités? Parce que ce sont là des critères de compétitivité tout à fait extraordinaires. Si nos docteurs sont recherchés par des universités, non seulement en France, mais dans les pays européens ou aux États-Unis, nous pouvons avoir le sentiment que nous formons de bons docteurs. Si nos professeurs et nos chercheurs sont engagés par des universités, nous pouvons espérer que nous avons de bons professeurs et de bons chercheurs. Mais, de l'autre côté, il nous faut nous-mêmes être attractifs, et c'est ce à quoi nous sommes astreints depuis maintenant près de 15 ans. Les opportunités sont considérables. Nous avons été parmi les premiers établissements français en 1998 à adopter l'harmonisation européenne des diplômes et de l'organisation des cursus universitaires. Vous savez qu'en France, cette harmonisation a pris la forme d'une structuration des cycles universitaires en 3 années pour les premiers cycles, que nous appelons à Sciences Po des collèges universitaires, en 2 années supplémentaires pour les masters, et puis ensuite, bien sûr, les doctorats d'au minimum 3 ans et parfois plus. Nous assistons à la constitution d'un marché mondial des étudiants d'élite. Un tout petit nombre d'étudiants parcourent le globe d'université en université, mais ce sont parmi les tout meilleurs, chacun de leur pays. Nous avons aujourd'hui 40% des élèves de Sciences Po qui ne sont pas des élèves français. Les élèves français, nous sommes très heureux de les attirer à Sciences Po, mais soyons honnêtes, nous vivons sur une rente que nous partageons avec l'ensemble des grandes écoles. Les lycéens, leurs familles, souhaitent être admis dans le système des classes préparatoires aux grandes écoles, puis dans les grandes écoles. Les premiers cycles universitaires souffrent beaucoup de leur faiblesse, sauf bien sûr en droit et en médecine, parmi d'autres disciplines. En revanche, quand nous réussissons à convaincre des étudiants américains, des étudiants chinois, des étudiants japonais, de faire le choix de l'Europe, de faire le choix de la France au sein de l'Europe et de faire le choix de Sciences Po, alors nous avons le sentiment que nous prouvons quelque chose à nous-mêmes et que du coup, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la confiance qui nous est ainsi faite. Alors, ayant ainsi mentionné ce que sont les exigences, mais aussi les opportunités de la compétition internationale, comment est-ce que ça se traduit concrètement au sein de Sciences Po? Premièrement, nous nous efforçons, et je crois que nous réussissons aujourd'hui, à donner à chacune et à chacun de nos élèves une véritable culture de l'international. Et nous efforçons de placer ces élèves dans un environnement qui soit véritablement multiculturel. Je disais à l'instant 40% d'élèves étrangers dans chaque cours, dans chaque salle de classe, cela se voit. Nous avons institué, il y a maintenant plus de 10 ans, l'obligation pour chacun de nos élèves d'être étranger pendant 1 an, hors de son pays natal. Tous nos élèves doivent accomplir 1 année d'études hors de Sciences Po, hors de son pays natal. Et je pense que c'est extrêmement important pour la future mobilité professionnelle et puis surtout pour l'ouverture intellectuelle, pour la prise d'autonomie que cela constitue pour chacune et chacun d'entre eux. Nous avons créé plusieurs premiers cycles ou petits collèges universitaires qui mêlent à parité des étudiants français et puis des étudiants qui viennent de grandes régions du monde, l'Europe centrale et orientale à Dijon, le monde germanophone à Nancy, le Moyen-Orient, le sud de la Méditerranée à Menton, les différentes régions d'Asie, au Havre, le monde latino-américain à Poitiers. Nous allons ouvrir à la rentrée 2010 un collège franco-américain à Reims. Et puis enfin, les enseignements sont bien sûr donnés en français et notamment pour nos élèves étrangers, car nous voulons que nos élèves étrangers puissent repartir, je l'espère, au moins francophiles, mais si possible francophones. Mais il nous faut aussi donner à nos élèves français l'habitude de travailler dans d'autres langues que le seul français. Donc ça, c'est le premier élément très fort, première mutation très forte provoquée par la compétition internationale. C'est cette culture de l'international et cette création d'un environnement multiculturel pour nos élèves. Deuxième conséquence de la compétition internationale, la recherche est devenue le moteur de développement de Sciences Po. Pendant très longtemps, la politique pédagogique, j'ai envie de dire celle de l'Institut d'études politiques de Paris, et la politique scientifique portée par la Fondation nationale des sciences politiques étaient assez distinctes, parfois même ignorantes l'une de l'autre. Cela n'est plus possible puisque les universités aujourd'hui sont très largement évaluées sur la qualité, sur la fécondité de leur production scientifique. Et il nous appartient, comme institution, de hisser la qualité de la production scientifique à l'échelle internationale. Je crois que la recherche est internationale ou elle n'est pas. Il convient aussi que nous soyons évalués par nos pairs et que nous soyons soumis à ce degré d'exigence que des universités allemandes, des universités britanniques, des universités américaines font porter sur leur propre corps académique. Alors, l'ensemble de ces mutations, et je pourrais revenir au moment des questions plus précisément sur chacune d'elles, l'ensemble de ces mutations en profondeur de notre institution ont finalement assez radicalement transformé la place de Sciences Po dans le paysage universitaire français. Comme vous le savez, notre pays se marque par cette organisation duale entre, d'un côté, des universités, souvent anciennes, pas toujours, qui portent la plus grande responsabilité de la formation à l'échelon des masters et du doctorat, mais qui souffrent de la concurrence dans leur premier cycle, à la fois des classes préparatoires aux grandes écoles et des grandes écoles elles-mêmes. Et des universités, par ailleurs, qui souffrent de la scission entre les grands organismes de recherche, d'une part, et les universités, d'autre part. Imaginez un petit peu l'université d'Oxford sans ses collèges, ou l'université de Cambridge sans la recherche. Et vous aurez une idée de ce qu'est l'université française dans la concurrence internationale. Cela n'a guère de sens. Nous tentons, sans prétendre réussir, nous tentons de décrire une troisième voie possible, celle de l'université sélective. Je sais bien que dans notre pays, l'association des deux mots peut paraître difficile à entendre, mais je crois que l'avenir est bien là. Université définie bien sûr par ses missions, non pas par son statut juridique, par ses missions, c'est-à-dire la production de connaissances, la recherche, la transmission des connaissances, la conservation et l'accès aux connaissances, c'est le rôle des bibliothèques, et puis bien sûr la valorisation des connaissances. Une université doit se définir par ses missions, bien plus que par son statut. Et de ce point de vue, Sciences Po est clairement une université. Mais c'est une université très sélective. Nous assumons qu'aux différents moments d'entrée à Sciences Po, nous sommes extraordinairement sélectifs, c'est-à-dire que nous faisons peser sur les candidats à une scolarité à Sciences Po des conditions très, très lourdes. Mais ce faisant, nous sommes très proches de bien de nos amis anglais, de nos amis américains, japonais, chinois, coréens, car il ne faut pas se limiter, évidemment, au seul monde occidental pour se comparer. Et cette façon de voir les choses, elle commence à se diffuser. Prenez l'exemple de l'université Paris 9 de Dauphine. Dauphine est bien une université qui a obtenu officiellement de pouvoir être sélectif. Chacun sait que Paris 2, un jour, souhaiterait pouvoir également devenir une université sélective. Plus généralement, beaucoup d'universités, notamment à Paris, opèrent dès le premier cycle une sélection en dissociant les différents éléments de ces premiers cycles. Le président de Paris 2, il y a peu de temps, a annoncé une voie spécifique en premier cycle en droit, un collège de droit réservé aux meilleurs élèves de son université. C'est bien une manière de créer de la sélection à l'entrée de l'université. Donc cela nous permet d'avoir cette place moins à la marge, moins singulière, et de nous recentrer dans le paysage universitaire français entre les grandes écoles très fortement sélectives, parfois la recherche est mal articulée aux formations d'un côté, et puis les universités qui peuvent souffrir de n'être pas maîtresses de leur politique de recherche et qui ne peuvent pas choisir leurs étudiants. Nous avons cherché à imaginer une troisième. Deuxième manifestation de ce que Sciences Po a changé de place au sein du paysage universitaire français, nous avons aujourd'hui des accords très dense, de double formation, avec des universités et des grandes écoles, et ceci dès les premiers cycles. Quelques exemples. Nous formons ensemble, avec l'Université Pierre et Marie Curie, par ici, des étudiants en sciences et des étudiants en sciences politiques. Et l'Université de Paris 6 délivre une licence à nos élèves, une licence de cette université. Et nous avons créé un master sous double sceau, qui est consacré au développement durable et qui donc permet d'allier des compétences scientifiques et des compétences dans le domaine des sciences sociales et politiques. Nous avons, de la même manière, un double cursus, des doubles cursus avec la Sorbonne, Paris 4 plus précisément, en lettres, en histoire et en philosophie. Et puis nous avons, ce matin même, au conseil de direction de l'IUP de Paris, adopté un accord avec le département de mathématiques de Paris 1, et nous formerons ensemble des étudiants en mathématiques de Paris 1 et des étudiants de Sciences Po. C'est quelque chose de très nouveau. Alors c'est très nouveau pour Sciences Po, je pense également que c'est très nouveau pour les universités qui n'auraient peut-être pas, il y a 15 ans, imaginé de délivrer un diplôme à des élèves de Sciences Po qui auraient suivi un double cursus. Mais nos accords ne se limitent pas aux universités. À l'échelon du master, nous avons créé d'une part avec HEC, d'autre part avec l'École Polytechnique, un double cursus permettant aux élèves qui suivent ces doubles cursus d'avoir d'un côté, à la fin de 5 années d'études, le diplôme d'HEC et le diplôme de Sciences Po, et puis l'autre accord, le diplôme de Polytechnique et le diplôme de Sciences Po. Donc vous voyez que nous étions très à la marge, nous étions très singuliers, et nous nous sommes à la fois profondément transformés de l'intérieur, et cette transformation de l'intérieur de notre institution nous permet aujourd'hui de jouer très fortement avec les universités parisiennes. Pas seulement parisiennes, j'ai mentionné les différents collèges universitaires à vocation multiculturelle. Nous sommes maintenant implantés dans 6 villes ailleurs que dans Paris. Je pense que ce qui compte, c'est l'esprit de l'institution, c'est la qualité des enseignements, c'est la production scientifique, peu importe le territoire sur lequel nous nous trouvons. Dernière illustration, et je m'arrêterai là, de cette évolution de la place de Sciences Po dans le paysage universitaire français. Vous savez que depuis les lois sur la constitution de pôles de recherche et d'enseignement supérieur, c'est une loi de 2006, et la loi sur les universités de l'été 2007, les universités françaises sont amenées à se remembrer, en quelque sorte, à passer des alliances. Et nous sommes un des membres fondateurs de l'université Paris-Cité, qui, en tout état de cause, devrait comprendre l'université René Descartes, qui est principalement une université médicale, les langues orientales, l'INALCO, Paris 7, qui est très forte en sciences et en technologie, et puis peut-être, ça c'est encore en discussion, Paris 1 et Paris 3. Et le fait que ces universités nous demandent d'être présentes à leur côté, nous proposent d'être cofondateurs de ces grandes fédérations universitaires, me paraît le plus récent des signes de l'évolution de notre place dans le système universitaire français. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de Richard Descoings, l'Institut d'études politiques de Paris dans le paysage universitaire français, le 22 juin 2009, prononcé devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.